Roi Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire, ce 4 août 2015.
Interpellé à Paris pour une affaire de corruption, le directeur de cabinet d'Ali Bongo, Meksan Akrombessi, a été relâché dans la soirée.
Ban Ki-moon appelle le Burundi au dialogue politique et condamne la tentative d'assassinat contre le militant des droits humains, Pierre Claver Mbonimpa.
Maintenant, avec l'assassinat du général Chimilima Adolphe, certains en profitent aussi pour éliminer tous ceux qu'ils avaient eu envie d'éliminer sans pouvoir le faire par le passé.
Innocent Moisi, directeur de la radio-télévision Renaissance à Bujumbura.
Nous reviendrons sur le forum de la CEDEAO, sur les bonnes pratiques en santé maternelle, un forum qui s'est tenu à Ouagadougou.
Si vous avez 50% dans un pays, par exemple, de la population qui n'a pas accès aux soins, forcément ces personnes-là, quelque part leur état de santé ne va pas être la même que là où les gens ont tous les services de santé.
Le docteur Xavier Crépin, directeur de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé.
Nous reviendrons également sur le sommet des universités africaines qui s'est tenu à Johannesburg et sur la seconde édition du sommet Yali ici à Washington.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
Le directeur de cabinet du président gabonais Ali Bongo, Meksan Akrombessi, a été interpellé puis relâché à Paris où il a été entendu par la police judiciaire. Les détails avec Henri Francisque.
Meksan Akrombessi a été interpellé lundi à Roissy par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières alors qu'il s'apprêtait à quitter la capitale française. Il a été relâché dans la soirée. Selon son avocat Francis Spinner, cité par l'AFP. Maître Spinner a ajouté que son client devait repartir au Gabon, où il continuera à exercer ses fonctions. L'interpellation du directeur de cabinet d'Ali Bongo est survenue dans le cadre d'une enquête ouverte en 2007 par le parquet de Paris pour corruption et blanchiment d'argent public étranger. Son immunité a été levée, selon le ministère des Affaires étrangères français. Lors de sa garde à vue à Nanterre, Meksan Akrombessi s'est expliqué sur un contrat de 2005 entre la société française Marc de confection d'uniformes militaires et le ministère de l'Intérieur gabonais pour un montant de 7 millions d'euros. Une ancienne salariée de la compagnie, qui était chargée de l'export à cette époque, a également été entendue par la police judiciaire. D'origine béninoise et naturalisée gabonais, Meksan Akrombessi est un influent collaborateur du président Ali Bongo, occupant le poste de la direction du cabinet présidentiel depuis 2009.
Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU condamne fermement la tentative d'assassinat contre Pierre Claver Mbonimpa, un éminent défenseur des droits de l'homme burundais, blessé par balle par des inconnus à Bujumbura lundi. Ban Ki-moon transmet ses vœux de prompt rétablissement à M. Mbonimpa et appelle à une enquête rapide et transparente afin de traduire en justice les auteurs de l'attaque. Cet incident, intervenu au lendemain de l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana, s'inscrit dans une tendance croissante de la violence à motivation politique au Burundi, qui doit être stoppée avant qu'elle ne dégénère et ne soit hors de contrôle, a déclaré M. Ban. Le secrétaire général de l'ONU souligne que la reddition de comptes et la reprise d'un véritable dialogue politique et inclusif sont la meilleure réponse à ces tentatives de déstabilisation du Burundi.
Khartoum se dit prêt à offrir des garanties judiciaires au mouvement rebelle soudanais afin qu'il participe à des négociations de paix. Le point avec Michel Joseph.
Le président Omar al-Béchir a appelé à un dialogue national dans l'espoir de mettre fin au conflit qui secoue les régions frontalières et empire les difficultés économiques du pays. « Nous sommes prêts à donner les garanties nécessaires pour que les groupes armés y participent », a déclaré lors d'une conférence de presse le premier vice-président Bakri Hassan Saleh, que cite l'AFP. Parmi ces garanties, le gel des condamnations contre les chefs rebelles. Les discussions doivent avoir lieu au Soudan, insiste le gouvernement, qui dit exclure pour le moment une amnistie totale en faveur des rebelles. Depuis 2003, des insurgés accusant notamment Khartoum de négliger leur région et de les discriminer s'opposent à l'armée soudanaise dans la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan. Un conflit qui a fait plus de 300 000 morts et déplacé 2,5 millions de personnes, selon l'ONU. Et depuis 2011, l'armée soudanaise fait face à une insurrection du mouvement de libération du Soudan dans le Kordofan Sud et le Nil Bleu.
La Cour pénale internationale a manqué d'importantes opportunités d'optimiser l'impact de son travail en Côte d'Ivoire, estime Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Ce rapport, intitulé « Pour que la justice compte, enseignement tiré du travail de la CPI en Côte d'Ivoire », souligne que la CPI devrait viser un rôle accru de davantage de victimes et de communautés locales. Il s'appuie sur des entretiens menés auprès d'activistes, de journalistes et de membres du personnel de la CPI à Abidjan et à La Haye, aux fins d'évaluer si le tribunal international a déployé suffisamment de moyens pour s'assurer que ses procédures sont pertinentes et accessibles aux Ivoiriens. Human Rights Watch dit avoir constaté que la décision du bureau du procureur de limiter ses enquêtes initiales aux crimes commis par un seul camp lors de la crise post-électorale de 2010-2011 a été une maladresse qui a affaibli l'impact potentiel de la Cour.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry affirme que ses homologues du Conseil de coopération du Golfe sont d'accord sur le fait que l'accord nucléaire signé avec l'Iran contribuera à la sécurité de leur région dès qu'il sera mis en application dans son intégralité. Monsieur Kerry était à Doha, au Qatar, pour une réunion sur l'accord du 14 juillet et l'expansion de la coopération régionale. Le point avec Chérubin Dorsil.
Pour le chef de la diplomatie américaine, un changement positif dans la région est possible, mais rien n'est assuré d'avance. L'espoir de tous, c'est que peut-être on va tourner la page. Mais nous nous préparons pour le cas contraire, a dit John Kerry, assurant que Washington poursuivra la voie diplomatique quand c'est possible, tout en coopérant avec ses alliés pour prévenir toute tentative de déstabilisation. À cet effet, des groupes de travail seront établis sur le partage des renseignements, la formation des forces spéciales et la sécurité maritime. Également envisagée, l'augmentation des ventes d'armes américaines aux pays arabes du Golfe, à un moment où les monarchies sunnites s'inquiètent des ambitions de leur rival iranien chiite. Le secrétaire d'État Kerry en a fait l'annonce à Doha. Question de rassurer ses homologues du CCG, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, Oman et Qatar.
Le président américain Barack Obama a dévoilé hier son plan pour ralentir le changement climatique. Ce plan vise à réduire de 32% d'ici 2030 les émissions de carbone des États-Unis. Le point sur Clean Power avec Eddie Isango.
Je suis convaincu qu'il n'y a pas de défi qui pose une plus grande menace pour notre avenir et pour les générations futures que les changements climatiques. C'est en ces termes que Barack Obama a souligné l'urgence d'une intervention avant que la situation ne devienne irréversible. Le président Obama a évoqué les progrès faits par les États-Unis, notamment en Californie, dont les niveaux de pollution de l'air étaient égaux à celui de Pékin, mais qu'il a sensiblement réduit. Le chef de l'État américain a souligné que beaucoup d'efforts restent à être faits, même si le débat est particulièrement vif à ce sujet aux États-Unis, où 37% de l'électricité est encore produite par des centrales au charbon, une source d'énergie problématique d'un point de vue environnemental. L'annonce de ce plan intervient à moins de 6 mois de la tenue à Paris de la conférence sur le climat COP21. Cette conférence réunira 195 pays qui devraient s'engager à limiter à 2 degrés Celsius la hausse de la température mondiale générée par les émissions de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, le président Obama prévoit de faire un discours important cette semaine sur l'accord international de restriction du programme nucléaire de l'Iran. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, M. Obama va soulever des arguments qu'il estime essentiels au soutien de l'accord, interdisant à l'Iran de construire une arme atomique dans les prochaines années en échange de la levée de sanctions. M. Earnest a ajouté que le président Obama pense que le Congrès américain devrait soutenir l'effort international visant à empêcher Téhéran d'obtenir une arme nucléaire par la diplomatie. Le Congrès est en période d'examen de 60 jours et devrait voter le mois prochain sur cet accord. En cas de rejet, M. Obama a dit qu'il opposerait son veto à la législation, ce qui obligerait le Sénat et la Chambre des représentants à rassembler une majorité des 2/3 pour passer outre à ce veto.
Les États-Unis ont mené leur première frappe défensive en faveur d'un groupe rebelle en Syrie, a confirmé le Pentagone lundi. Cette frappe menée vendredi devait appuyer le groupe Nouvelle Syrie, selon un porte-parole du Pentagone, Bill Urban. Un peu plus tôt, le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a déclaré que la Syrie ne devait pas entraver les actions des forces formées par les Américains pour combattre le groupe État islamique, à défaut de quoi des mesures supplémentaires pourraient être prises pour les protéger, a-t-il ajouté.
Enfin, ici aux États-Unis, un jury du Colorado a refusé de se prononcer sur la peine de mort pour James Holmes, reconnu coupable le mois dernier dans la fusillade en 2012 dans un cinéma près de Denver qui avait fait 12 morts.
Pour l'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco vous est présentée ce matin par Michel Joseph.
Le ministre ivoirien délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, a promis pendant le week-end à Bouaké que le fonds d'aide à la jeunesse dénommé Agir pour les jeunes sera bientôt opérationnel sur tout le territoire ivoirien après sa phase pilote qui ne couvre que 10 régions du pays. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse à la fin du lancement de l'édition 2015 de la caravane Jeunesse saine, protège-toi. La Suisse vient d'allouer au Burkina Faso une subvention de 12,3 milliards de francs CFA destinée au financement de la mise en œuvre du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. Pour une première phase, couvrant la période 2015-2018, a appris l'agence APA auprès du ministère de l'Économie et des Finances. Le financement, qui couvrira les régions du Nord, de l'Est, du Centre-Ouest et du Sahel, a pour objectif principal de permettre aux communes et aux régions de fournir de meilleurs services publics, améliorant ainsi la qualité de vie des hommes et des femmes et facilitant les activités économiques. Plus de 6,5 milliards de francs CFA seront distribués cette année au Cameroun, dans le cadre du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales, en vue de financer jusqu'en 2016 près de 8 000 projets agropastoraux à travers le pays.
Merci Michel Joseph pour la Minute Éco. À présent, les sports présentés par Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
La violence dans les stades en RDC.
Suite à la multiplication des cas de violence dans les stades congolais, la Fédération congolaise de football organise jusqu'à mercredi à Kinshasa un séminaire national. Les résolutions de ce séminaire serviront de feuille de route à l'organisation de tous les championnats en République démocratique du Congo. Les travaux sont dirigés par Constant Omari Selemani, membre du comité exécutif de la FIFA et de la Confédération africaine de football. On l'écoute.
Le premier objectif, c'est de nous permettre de réfléchir pour enrayer, arrêter cette montée en puissance du fléau qui concerne la violence dans notre football. Et ensuite, en examinant l'environnement politique de notre pays aujourd'hui et en examinant les ingrédients de ce jour, il y a une forte impression qui présage que le stade risque de devenir encore plus dangereux en termes de mode d'expression de violence qui vont monter d'une manière exponentielle. Donc, il faudrait, à titre préventif, prendre des dispositions, alerter tout le monde pour éviter effectivement que les choses puissent dégénérer.
Constant Omari, membre du comité exécutif de la FIFA et de la CAF, au micro de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
L'UEFA sanctionne le racisme.
Le club polonais de Lech Poznan a été sanctionné d'un match à huis clos et d'une amende en raison de la présence en tribune d'une pancarte raciste lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'était à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. S'il se qualifie mercredi à Bâle lors du troisième tour préliminaire de la C1, le Lech Poznan disputera son prochain match de compétition à huis clos. Le club a en outre écopé d'une amende de 50 000 euros, a précisé l'UEFA sur son site internet.
Et en natation, l'américaine Ledecky, reine des bassins.
La jeune Katie Ledecky a battu son 8e record du monde en améliorant sa propre marque sur 1500 mètres nage libre dames en 15 minutes, 27 secondes et 71 centièmes. C'était lors des séries des mondiaux de natation hier à Kazan. Il s'agit du quatrième record du monde que Lady Ki bat sur 1500 mètres nage libre, une distance non olympique pour laquelle elle détient le titre mondial. L'Américaine a réalisé sa performance au lendemain de sa victoire sur 400 mètres nage libre où elle conserve sa couronne.
Merci Nicolas pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Au Burundi, le militant des droits de l'homme Pierre Claver Mbonimpa a échappé hier en fin d'après-midi à un assassinat ciblé. Le président de l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues a reçu 2 balles au cou et au visage alors qu'il se dirigeait chez lui en voiture. Il est soigné dans une clinique privée à Bujumbura et sa vie est hors de danger. Selon Innocent Mouazi, le directeur de la radio-télévision Renaissance, joint par Eric Manirakiza à Bujumbura, M. Mbonimpa a été suivi par des individus en moto qui l'ont dépassé et ont tiré sur lui.
Déjà, on a vu sur les réseaux sociaux certaines accusations de personnes qui prétendaient que c'est lui qui a fait assassiner le général Adolphe Chimilimana, mais bien évidemment, c'était une façon peut-être de le désigner déjà ou d'anticiper ce qui allait lui arriver. En faisant croire ce genre de choses auxquelles personne ne peut croire, mais c'est certain que c'est quelqu'un qui a été à la base de la mise à jour de beaucoup de crimes qui ont été commis par les services de sécurité dans ce pays, qui était ciblé, qui avait été arrêté plus d'une fois, qui avait été menacé régulièrement. Moi, je crains qu'il ne se passe pour certaines personnes ce qui s'est passé déjà avec les radios, avec la tentative de coup d'État, où on a vu que la tentative de coup d'État a été l'occasion pour en finir avec les radios qu'on voulait déjà fermer depuis un bon bout de temps. Et que maintenant, avec l'assassinat du général Chimilimana Adolphe, certains en profitent aussi pour éliminer tous ceux qu'ils avaient eu envie d'éliminer sans pouvoir le faire par le passé.
Il y a eu un appel au calme par le président de la République. Il y a beaucoup de chancellerie qui abondent dans le même sens. Est-ce que vous pensez que le calme va revenir à Bujumbura?
C'est un message tout à fait pertinent d'appeler au calme, un message qui avait été apprécié en général par tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est peut-être trop tard pour tout ça. Ça fait trop longtemps que la violence s'est installée dans ce pays. Je ne suis pas sûr qu'il suffise d'un appel au calme pour qu'on puisse éviter le chaos dans lequel on est en train d'évoluer depuis plusieurs mois. Ce pays s'achemine au vu et au-dessus de tout le monde entier vers un chaos, vers une violence politique généralisé et les gens continuent à regarder comme s'ils ne voyaient pas ça. Ça fait des mois, ça fait longtemps que les gens disent qu'il faut forcer les différents acteurs à s'asseoir et à dialoguer sérieusement sur tout le pays. Certains font la sourde oreille, les gens de la région, de l'Union africaine, de la communauté internationale qui devraient imposer ce dialogue-là, font comme s'ils avaient le temps, mais alors ils risquent d'être tout simplement trop tard.
Est-ce que vous pensez que ce qui est arrivé au Rwanda en 1994 risque d'arriver aussi au Burundi?
Non, la violence à grande échelle peut arriver sans que ce soit nécessairement à caractère ethnique, hein, parce qu'aujourd'hui, le problème du Burundi, très clairement, n'est pas ethnique, même si certains veulent l'utiliser. S'il y a des massacres, c'est des massacres qui concerneront tout le monde, qui vont toucher aussi bien des Hutus que les Tutsis. Donc ce ne sera pas exactement comme au Rwanda, mais des massacres à grande échelle sont tout à fait possibles. Une véritable guerre civile chaotique est tout à fait possible s'il n'y a pas vraiment d'intervention politico-militaire énergique pour stopper la spirale que tout le monde voit monter depuis plusieurs mois. Bujumbura, c'est l'insécurité totale.
Innocent Mouazi, directeur de la radio-télévision Renaissance à Bujumbura. Des universitaires venus de divers pays du continent se sont retrouvés la semaine dernière à Johannesburg pour un sommet des universités africaines. L'occasion de se pencher sur les grands défis de l'enseignement supérieur en Afrique. Le point avec Lionel Gaïma.
Les universitaires ont souligné que le développement du continent passe par l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur en particulier. Mais, ont-ils ajouté, le manque de fonds, les faibles infrastructures et la forte demande font de l'éducation de jeunes Africains une gageure. David Finanga est le numéro 2 de l'Université de Dar es Salaam. La plupart des pays tentent d'augmenter le nombre de diplômés parce que c'est important pour le développement économique, mais les ressources sont insuffisantes et cela affecte la qualité. Donc, nous nous débattons dans des difficultés en essayant d'établir un équilibre entre les deux, parce que nous avons besoin de quantité, c'est-à-dire d'un plus grand nombre de diplômés, tout en préservant la qualité face à des ressources limitées. Même l'une des plus grandes universités d'Afrique australe se débat dans des difficultés financières persistantes. Pinky McGwe de l'Université de Johannesburg.
Nous avons vu la réduction d'une partie du financement gouvernemental et nos institutions doivent trouver des moyens de combler le manque à gagner.
Devin Finanga de l'Université de Dar es Salaam reconnaît que ce n'est pas facile de se battre pour l'enseignement supérieur en Afrique, un continent souvent confronté à des plus graves problèmes tels que la guerre, la famine et la pauvreté. Mais soutient-il, un enseignement supérieur de qualité aidera à résoudre beaucoup de ces problèmes. Vous ne pouvez pas avoir de développement sans création de la connaissance et sans transfert de cette connaissance. Les experts estiment aussi que les gouvernements africains devraient tenir compte des conséquences pour tous ces jeunes sortis frais et moulus des établissements d'enseignement supérieur. Ousmane Sen, directeur du Centre de recherche ouest-africain.
Quand vous formez ces jeunes, vous remplissez leur cerveau de connaissances. Que va-t-il se passer quand ils sortent de l'université et n'ont pas d'emploi?
Il est évident que les problèmes de l'enseignement supérieur en Afrique ne pourront pas être réglés du jour au lendemain. Ils nécessitent des investissements massifs, un engagement de la part du gouvernement et les efforts combinés de toutes les parties concernées. La situation n'est pas moins urgente, disent les experts, parce que l'avenir même de l'Afrique en dépend.
Mettre fin aux décès maternels et infantiles évitables en Afrique de l'Ouest, tel est le thème central du forum organisé par la CDAO récemment à Ouagadougou, avec comme leitmotiv le partage des bonnes pratiques en santé. Voici un reportage de Zoumana Wonogo, correspondant de VOA Afrique au Burkina Faso.
Sur la situation de la mère et de l'enfant dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a des motifs d'inquiétude. Écoutons les chiffres qui parlent d'eux-mêmes avec Xavier Crespin, directeur général de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé.
La mortalité infantile varie de 24 pour 1000 au Cap-Vert à 94 pour 1000 en Guinée-Bissau, ce qui nous donne environ une moyenne de 63 pour 1000 de la région, ce qui reste un taux assez élevé. Pour ce qui est de la mortalité même des enfants de moins de 5 ans, elle varie de 22 pour 1000 au Cap-Vert à 182 pour 1000 en Sierra Leone. La moyenne se situe à 98 pour 1000 au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de la mer, la moyenne se situe à 510 pour 100 000 naissances vivantes. À titre de comparaison, pour l'Afrique de façon globale, ce même taux est à 339 décès pour 100 000 naissances vivantes.
Les mauvaises pratiques en santé sont mises en cause. Pourquoi ne pas se pencher plutôt sur la dénonciation des mauvaises? Comme on dit en journalisme, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Le DG Xavier Crespin répond.
Bon, c'est une question un peu compliquée. Il y a des situations dans lesquelles nous avons des difficultés pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Il y a des questions liées à la situation même sanitaire, c'est-à-dire si vous avez 50% dans un pays, par exemple, de la population qui n'a pas accès aux soins, forcément ces personnes-là, quelque part leur état de santé ne va pas être la même que là où les gens ont tous les services de santé. Il y a des questions liées au financement même du service de santé qui fait que vous n'avez pas tout ce qu'il faut dans les services de santé. Vous avez des questions liées au manque de personnel. Tout diminue au fur et à mesure que vous vous éloignez de la capitale. Donc, nous ici, nous sommes là plutôt pour dire que dans nos pays, il y a beaucoup de pratiques et de bonnes pratiques.
Dans l'esprit du partage des bonnes pratiques, suivons l'exemple venu du Mali avec Madame Aïssata Aïdara.
Moi, j'ai présenté l'insertion des implants par les matrones parce qu'avant, dans mon pays, les matrones n'avaient pas droit à insérer les implants vu leur importance au niveau de la communauté rurale où l'accessibilité n'est pas du tout facile. Donc, les personnes personnels qualifiés que représentent les sages-femmes en général ne veulent pas aller dans ces milieux ruraux, alors qu'il y a des femmes qui sont là, qui ont besoin des méthodes de planification familiale, mais qui n'ont pas accès. Donc pourquoi ne pas former ces matrones qui sont en contact permanent avec cette population rurale qui sont dans le besoin, où le taux de fécondité est très élevé, où on a vu que le taux de fécondité chez les femmes rurales va de 6 enfants et plus. Ça marche beaucoup parce qu'on a eu des résultats probants dans le pays qui nous a permis d'aller à l'extension et qui nous a permis aussi d'intégrer cette pratique dans notre politique.
Cependant, quelles sont alors les mauvaises pratiques au Mali? Avons-nous relancé Mme Aïssata Aïdara?
Je ne saurais vraiment parler de mauvaises pratiques au Mali, sauf les mariages précoces. Ça, c'est vraiment des mauvaises pratiques. Parce que si on marie les filles à l'âge de 13, 14 ans, avant même leur première menstrue, c'est des problèmes que ces femmes vont encourir lors de leur première grossesse, de leur accouchement, et surtout c'est des femmes qui vont développer des fistules et aussi l'excision, qui est un sujet tabou qu'on ne veut vraiment pas aborder à cause des us et coutumes.
L'espoir est permis, assure Abdoulaye Gueye, le représentant du ministre de la Santé du Sénégal.
Il y a quelques années, la santé était réputée être un investissement improductif. Autant aujourd'hui, c'est quasiment une conditionnalité des partenaires. Quand vous faites des plans stratégiques, on vous suggère d'insérer la dimension capital humain, la santé, l'éducation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager ou avoir un projet de développement, un projet d'émergence si on n'intègre pas la santé. Cela veut dire que ça nous ouvre de bonnes perspectives pour développer la santé des populations.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le président américain a donné le coup d'envoi lundi ici à Washington de la seconde édition du sommet Yali consacré aux jeunes leaders africains. Pendant plus d'une heure, Barack Obama a échangé avec les 500 jeunes invités. Il a évoqué plusieurs sujets dont l'entrepreneuriat en Afrique, la discrimination faite aux femmes et à certaines minorités, tout en se disant optimiste sur l'avenir du continent. Comment son message a-t-il été accueilli? Bagassi Koura a posé la question à deux participants venus du Bénin. Voici d'abord Aurélie Adam Soulet, ingénieure en télécommunication.
Le discours du président Obama a été très inspirant pour nous tous et je peux le dire fièrement de la part de tous les autres fellows. Personnellement, ce que je retiens le plus, c'est qu'on peut être le plus grand homme, le plus convoité du monde et encore être accessible aux personnes qui sont les plus importantes sur cette terre, les jeunes, les femmes. Ceux qui au quotidien vivent en fait toutes les difficultés dans leur pays respectif. Le président Obama nous a beaucoup inspirés par son discours.
Quelque part, il a dit, pour savoir la santé économique d'un pays, il suffit seulement de voir comment ce pays traite les femmes. Comment vous appréciez cela?
C'est tellement vrai et c'est tellement pertinent ce qu'il a dit. Parce que regardez autour de vous, en fait, on peut prendre quelques exemples sans trop vouloir jeter la pierre. Regardez dans nos pays, regardez dans nos régions. Au Bénin, il y a des régions où cette suprématie mâle, entre guillemets, est très répandue, très forte. Et je me rends compte que effectivement, économiquement, ce sont les régions qui ont le plus de difficultés à émerger.
On m'appelle Roméo Essou. Je suis actuellement le directeur national de l'ONG Right to Play au Bénin. Et je suis ici dans le cadre du programme pour les jeunes leaders africains. Et je retiens de son discours essentiellement qu'il a demandé à nous, les jeunes africains, les leaders de demain, le rôle qui est le nôtre dans le processus qui consistera à freiner l'hémorragie des cerveaux africains vers les pays européens. L'Afrique a besoin de ses cadres. L'Afrique a besoin de l'intelligence de ses fils. Malheureusement, la plupart d'entre ces fils qui viennent découvrir tout ce qu'il y a de bon dans le système éducatif occidental, malheureusement, disais-je, tout cela ne retourne pas au pays pour contribuer. Et ce n'est pas toujours parce qu'ils sont animés de mauvaise volonté, mais c'est parce qu'à l'intérieur de l'Afrique, nous n'avons pas créé les conditions qu'il faut pour permettre à ceux-là de revenir et réinvestir leur savoir.
Roméo Essou, participant au sommet Yali à Washington et directeur national de l'ONG Right to Play au Bénin.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique.
Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre. Des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, assistée par John Ellison. Et avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon mardi à toutes et à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.